Les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Nouakchott, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Le président Donald Trump s'en est vivement pris à la Chine ce mardi en l'accusant de ne pas respecter les termes des négociations commerciales au moment où les discussions bilatérales reprennent à Shanghai entre négociateurs américains et chinois. Dans un tweet, le chef de l'exécutif américain a estimé que la Chine jouait la montre et attendait l'élection présidentielle américaine de 2020 en espérant sa défaite. Mais, a souligné le président Trump, la Chine aurait un accord beaucoup plus dur que celui que nous négocions maintenant ou pas d'accord du tout s'il remportait le scrutin. Les discussions qui se déroulent dans la capitale économique chinoise sont les premières en face-à-face depuis l'échec brutal des négociations bilatérales en mai, lorsque Donald Trump avait accusé Pékin d'avoir manqué à ses engagements. La Chine et les États-Unis sont engagés depuis l'an dernier dans un bras de fer commercial qui s'est traduit par l'imposition réciproque de droits de douane punitifs portant sur plus de 360 milliards de dollars d'échanges annuels. Actualité américaine toujours, en Afghanistan, deux soldats américains ont été tués hier alors que Washington engage des négociations directes avec les talibans pour mettre fin à la guerre dans le pays. Le point avec Eric Maniratiza.
Les deux militaires, dont l'identité n'a pas été révélée, ont été tués en action d'après le communiqué du commandement de l'OTAN sans plus de précision. Ces décès portent à 12 le nombre de soldats américains tués au combat depuis le début de l'année en Afghanistan. Près de 2300 militaires américains sont morts et plus de 20 000 blessés depuis fin 2001 lorsqu'une coalition menée par les États-Unis a chassé les talibans du pouvoir. Cependant, le nombre des morts dans les rangs américains a baissé depuis que la mission de l'OTAN a cessé d'être une mission de combat en 2014. Le président Donald Trump veut engager le retrait des troupes américaines avant la présidentielle de novembre 2020. Parallèlement, les États-Unis ont engagé depuis un an un dialogue direct inédit avec les talibans. Les négociations ont permis de faire de vrais progrès, a assuré le secrétaire d'État Mike Pompeo. Le négociateur américain Zalmay Khalilzad est à Kaboul et doit se rendre dans les prochains jours à Doha, au Qatar, pour de nouvelles discussions avec les talibans.
Afrique maintenant, contestation au Soudan, les négociations prévues aujourd'hui entre leaders du mouvement de protestation et généraux au pouvoir n'auront pas lieu. Les négociateurs de la contestation étant restés dans la ville d'El Obeid, dans le centre du pays, où 5 lycéens ont été tués lors d'une manifestation hier contre les pénuries de pain et de carburant. Les manifestants accusent les paramilitaires des forces de soutien rapide RSF, dirigées par Mohamed Hamdan Daglo, le numéro 2 du conseil militaire à la tête du pays, d'avoir tué les 5 lycéens. Pour sa part, l'ONU a réclamé aujourd'hui une enquête sur cet incident avant toute nouvelle discussion entre les parties soudanaises. République démocratique du Congo, un accord a été trouvé pour la composition du gouvernement. Le Front commun pour le Congo de l'ex-président Joseph Kabila et la coalition CAP pour le changement de son successeur Félix Tshisekedi l'ont annoncé tard dans la nuit de lundi à Kinshasa. Attendu depuis 6 mois, le premier gouvernement de Félix Tshisekedi sera composé de 65 membres en majorité issus de la plateforme politique de M. Kabila. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Hormis le Premier ministre, le futur gouvernement de la République démocratique du Congo comprendra 48 ministres et 17 vice-ministres, dont 23 pour cas pour le changement du président Félix Tshisekedi et 42 pour le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila qui, majoritaire au Parlement, se taille également la part du lion dans ce gouvernement. Ce résultat est le fruit des longues discussions entre les deux familles politiques qui, au lendemain de la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle, ont décidé de former une coalition pour gérer le pays ensemble durant ce quinquennat. Cet accord prévoit des principes devant guider le Premier ministre à former son gouvernement qu'il soumettra ensuite à la nomination du président de la République, a dit lors de la conférence de presse Néhémie Mulanya, le coordonnateur du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Un comité de suivi paritaire veillera au respect des dispositions prises par le négociateur, a-t-il conclu. Nommé depuis le 20 mai dernier, le Premier ministre Sylvestre Ilunga était présent à la conférence de presse mais ne s'est pas exprimé. Aucune annonce non plus n'a été faite sur la date de la publication du futur gouvernement. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Mauritanie, le blogueur mauritanien Mohamed Cheikh Oulm Hétir, maintenu en détention au-delà de sa peine, après une condamnation pour un article jugé blasphématoire envers le prophète de l'islam, a été remis en liberté à l'aube le lundi 29 juillet. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué ce mardi l'ONG de défense des journalistes Reporters sans frontières. Information confirmée par Maître Fatima Tambay, l'avocate du blogueur, qui souligne que Mohamed Cheikh Oulm Hétir, 36 ans, détenu depuis janvier 2014, a été libéré hier du lieu où il était en résidence surveillée, mais qu'il n'est pas entièrement libre de ses mouvements. Madame Bay ajoute que le blogueur a quitté la capitale Nouakchott. Politique en Côte d'Ivoire, première rencontre en 10 ans entre deux anciens ennemis. Les ex-présidents ivoiriens Henri Conan-Bédier et Laurent Gbagbo, lundi à Bruxelles, en Belgique. Leur premier entretien depuis la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait près de 3000 morts dans leur pays. Henri Conan-Bédier avait apporté son soutien à l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara au deuxième tour de la présidentielle de 2010. Et il est resté son allié jusqu'à l'année dernière avant de passer dans l'opposition en vue de la présidentielle de 2020. Que peut signifier le tête-à-tête entre les deux anciens chefs d'État ivoiriens à Bruxelles? Idriss Fall a rejoint César Etou, directeur du journal La Voix Originale à Abidjan.
Cela veut dire que la Côte d'Ivoire va très mal et que ces deux anciens présidents qui se sont connus, l'un Henri Conan-Bédier, ou dans le sillage du pouvoir avec Félix Houphouët-Boigny et l'autre toujours dans l'opposition, sont arrivés à la conclusion qu'il faut qu'ils se retrouvent pour soigner le pays.
Mais ne serait-ce pas une coalition contre nature parce que M. Bédier avait soutenu en 2010 M. Ouattara?
Une coalition n'est jamais contre nature. Une coalition vise toujours un objectif précis. Aujourd'hui, M. Bédier s'aperçoit que la coalition qu'il avait passée avec M. Ouattara en 2006 contre le président Laurent Gbagbo est une coalition qui a desservi la Côte d'Ivoire. Alors, chez nous, en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement, on dit c'est le chemin qui conduit devant qui finit. Lorsque vous êtes dans un cul-de-sac, vous retournez tranquillement sur vos arrières pour mieux repartir dans le bon chemin. Je pense que c'est ce que le président Henri Conan-Bédier est allé appliquer à Bruxelles en rendant visite au président Laurent Gbagbo.
Tous les deux, ils appellent à une réforme de la commission électorale indépendante qui était à la base de tous les problèmes en 2010.
Mais absolument. Vous savez, cette commission, il n'y a pas que le président Laurent Gbagbo et Conan-Bédier qui appellent à sa réforme. L'Union africaine a appelé à sa réforme. L'ONU a pris une résolution pour recommander sa réforme. Sur cette commission, le pouvoir de M. Ouattara a perdu un procès devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Toutes les ONG de Côte d'Ivoire demandent la réforme profonde. Il n'y a que M. Ouattara qui continue de croire que cette commission lui convient. Les présidents Bédier et Gbagbo ne font que redire ce que toute la communauté internationale demande au gouvernement de M. Ouattara.
Dans l'esprit de 2020, les deux hommes participent à la vie politique ivoirienne depuis plus de 30 ans. Peut-on prévoir l'arrivée des jeunes? Pourquoi pas Guillaume Soro? Pourquoi pas Kakabé? Pourquoi pas Charles Brégoudé?
Se présenter aux élections est une décision personnelle. Donc, laissons les uns et les autres prendre leurs décisions. Mais pour l'instant, ce qui préoccupe les Ivoiriens, c'est 1. La réconciliation nationale, un domaine dans lequel M. Ouattara a totalement échoué. 2. La réforme profonde de la commission électorale indépendante. Quand le décor aura été planté pour des élections apaisées, chacun avisera. Tout ce que vous citez, si les conditions d'élection sont telles qu'on doit déboucher encore sur la guerre, c'est même pas sûr que jeune ou vieux, que chacun se présente. Ce sur quoi il faut travailler, ce sont les conditions de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire pour que les élections ne débouchent plus sur la guerre.
César Etou, directeur du journal La Voix Originale à Abidjan. Et pour terminer, conflit en Libye, le trafic aérien a repris ce mardi au seul aéroport opérationnel de la capitale Tripoli. Et ce, après la suspension d'urgence des vols hier suite à la chute de roquettes à proximité. L'ONU s'inquiète de la fréquence croissante de ces attaques ayant failli toucher des avions civils. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.